Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, la relation soignant-soigné, une série de Mélanie Deschalottes réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a ces pages de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux où se raconte l'expérience vécue face à un médecin qui a abusé de son pouvoir. Ces moments de faiblesse où l'on s'en remet à celle qui sait, à la merci d'une blouse blanche. Mais il y a aussi ces autres fois où un généraliste débordé a su prendre le temps de nous écouter et forcément l'hôpital qui va mal et les soignants sous pression. Et enfin, il y a l'envie d'explorer de quoi est faite l'étrange relation qui se tisse entre les malades et celui ou celle qui le soigne. Un lien complexe fait de dépendance, de faiblesse, de savoir, d'empathie, de méfiance, de confiance et surtout d'incertitude. Mais on peut se demander comment, la prochaine fois, parvenir à refuser de rester nu en attendant la radio ou obtenir que le médecin nous réexplique encore une fois ce qu'on n'a pas compris. Alors pour commencer, les personnages. Des patientes et des patients avec leurs souvenirs cuisants, des médecins qui veulent faire autrement, d'autres qui ne veulent rien entendre, un psychiatre, des sages-femmes, une juriste, une militante, une directrice et une psychologue. Ensuite le décor. Des maternités, des salles d'accouchement, des lits d'hôpital, des sangles de contention, des services d'urgence, des bouffées délirantes, des étriers, des réunions et beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, 4e épisode, comment se faire entendre ?
Accouchement violent, examen traumatisant, mépris du praticien ou encore manque de dialogue. Ces 5 dernières années, les actes gynécologiques sont devenus un sujet de polémique. Sur Internet, la parole se libère et les témoignages anonymes s'accumulent.
Quand je pose une question, on me répond à peine. On me pose une sonde urinaire. Je n'en veux pas, mais je n'ai pas le choix.
Et là, une douleur atroce me transperce. Il vient de mettre un coup de ciseau. Je n'ai pas d'anesthésie. Ça me fait un mal de chien. En mars dernier, la première association totalement dédiée à ces violences obstétricales se crée. En 5 mois, 2000 témoignages recueillis.
En 2015, janvier 2015, et en fait c'est un groupe Facebook constitué de femmes qui ont été victimes de violences obstétricales et gynécologiques. On est environ à 3300 membres aujourd'hui. En lisant tous les témoignages qu'on reçoit sur CIVO, c'est qu'en fait, cette partie de la loi Kouchner, qui date de 2002, elle est occultée, c'est-à-dire le consentement, le recueil du consentement libre et éclairé n'est pas respecté. Des lectures que j'ai des témoignages là depuis 3 ans.
Basma Boubakri est la fondatrice de la page Facebook CIVO et de l'IRASF, l'Institut de Recherche et d'Action pour la Santé des Femmes. Édictée en 2002, la loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précise que toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical, ni aucun traitement, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Destiné à instaurer le dialogue entre patients et soignants, cette loi vise à établir les fondations d'une relation de confiance. C'est la première base de la prévention de la maltraitance médicale. Mais comment cette notion de consentement est-elle appréhendée en obstétrique et en psychiatrie ? La loi est-elle vraiment respectée par les soignants ? Dans les maternités françaises, les professionnels de santé ont tendance à considérer les femmes qui accouchent comme inaptes à comprendre les informations de soins, tandis que leur consentement, rarement recherché, est souvent bafoué. Aujourd'hui, les femmes parlent. Des associations de victimes de violences obstétricales luttent pour obliger les professionnels de la naissance à respecter la loi sur le consentement et à modifier leurs pratiques. Et dans les services psychiatriques, comment peut-on concilier soins et droits alors que souvent, on soigne sans consentement ou sous la contrainte? Quelles sont les règles juridiques et les critères qui définissent l'hospitalisation ou les soins contraints? Des réseaux de patients, mais aussi des soignants, milite pour une meilleure considération des personnes atteintes de troubles mentaux. Consentement et violence en obstétrique et psychiatrie par Mélanie Deschalottes et Manouchak Fachaï.
Dans le milieu de la périnatalité, de la naissance respectée, ce qui se passait, c'est quand on prononçait les termes de violence obstétricale,
Basma Boubakri.
Ces termes, ils étaient absolument réfutés. Et les soignants qui se trouvaient eux-mêmes sur les groupes venaient un petit peu polisser notre discours et nous dire qu'on ne peut pas prononcer ces deux mots, violence obstétricale, parce que c'est trop violent envers les soignants. Voilà, donc on a eu un long combat d'acceptation de ces termes de violence obstétricale. Et sur le groupe, elles ont ce confort, entre guillemets, de pouvoir être soutenues par d'autres femmes. Et là, les femmes, en fait, elles sont absolument libres de raconter leur expérience, les conditions dans lesquelles elles ont accouché, les violences qu'elles ont subies. Il y a beaucoup de femmes qui, finalement, dans leur famille, dans leur travail, dans leur environnement proche, elles n'en parlent plus de leur expérience d'accouchement.
Pourquoi les femmes n'en parlent plus ?
Les souffrances et les violences qu'elles ont subies sont niées, c'est-à-dire c'est un tabou, il ne faut pas en parler et souvent en fait on va la regarder et on va presque lui dire que de façon assez infantilisante qu'elle n'avait pas conscience qu'un accouchement c'était violent et qu'en fait c'est elle qui le vit mal et ça se résume à ça, c'est l'accouchement qui est violent et pas les gestes et les faits qui ont été posés sur cette femme de la part des soignants.
Laetitia fait partie de ces femmes qui ont connu un accouchement traumatique.
J'étais arrivée à terme, donc j'étais à 41 semaines, pile le jour du terme. Mon accouchement s'est déclenché à minuit, où j'ai senti les premières contractions. Nous sommes partis pour la maternité. Et donc là, j'ai eu un monito et un toucher vaginal tout de suite. Ça s'est fait sur le dos, j'avais très très mal. J'ai demandé à ce que ça ne soit pas fait dans cette position-là, mais on me l'a imposé. Suite à cela, la sage-femme donc, s'est rendue compte que j'étais dilatée quasiment au maximum. J'étais à 8,5-9, donc nous sommes passés tout de suite en salle de naissance. On m'avait posé une voie centrale sur la main, sans mon consentement non plus. Et voilà, donc là, il s'en est suivi 3 heures où j'ai pas mal souffert. Où on m'a imposé les positions pour faire descendre la petite dans le bassin. À chaque fois que la sage-femme revenait, il y avait des touchers vaginaux qui m'étaient là aussi imposés. C'était mon premier accouchement d'abord et j'ai pas vraiment cherché pour le coup à contredire la sage-femme quand elle m'a dit mettez-vous à quatre pattes ou mettez-vous comme ça pour faire descendre le bébé.
Est-ce qu'elle branche la voie veineuse une fois que vous êtes en salle de naissance à une poche ?
Oui.
Est-ce que vous demandez ce qu'il y a dans la
non.
poche ?
Non,
ils
non.
vous le disent pas ?
Non. Je l'ai appris plus tard, encore une fois, tous ces actes-là, j'ai appris ce qu'il y avait dans les poches bien plus tard quand je me suis renseignée.
Donc vous êtes en salle de naissance et la sage-femme commence à devenir particulièrement désagréable ?
Oui, elle est devenue assez désagréable quand elle a vu que le travail prenait un peu de temps et que surtout j'essayais d'imposer mes propres choix. Ce qui ne lui a pas plu. J'ai eu un petit peu cette sensation-là et mon projet de naissance est passé à la trappe. Il a été tout de suite mis derrière mon dossier, il n'a même pas été lu. Je voulais être prévenue des actes qui allaient être effectués sur mon corps et sur le corps de mon enfant.
Dans les témoignages et récits qu'on reçoit, le consentement libre et éclairé, je vais dire que dans pratiquement tous les cas, il n'est pas recueilli. Et j'irai même un peu plus loin en disant que quand la femme a une démarche d'obtention du consentement libre et éclairé par le biais d'un outil qui est le projet de naissance, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire que le projet de naissance devient un outil de punition de par les soignants. C'est-à-dire qu'elle fait une démarche en se disant, par ce biais-là, je demande aux soignants, noir sur blanc, je veux pas ça, je voudrais ça. En cas d'extrême urgence, j'accepte une césarienne, exemple. Et ce qu'on constate sur Civo, c'est que les projets de naissance deviennent un outil d'affront. J'ai lu des phrases du type sur Internet de soignants qui disent ben moi, votre projet de naissance, je m'assois dessus.
Laetitia, vous êtes en salle de naissance et la sage-femme perd patience et elle vous demande d'accélérer le travail en effectuant des poussées bloquées.
Elle me fait faire ça plusieurs fois pour voir si le bébé descend bien. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle est en OS, ça s'appelle l'occipital sacré. Donc la petite a juste la tête qui regarde en l'air au lieu de regarder en bas. Et elle décide de tourner la tête de ma fille directement en introduisant sa main entière dans mon vagin et de prendre la tête de la petite, de la tourner. Ce qui a occasionné une douleur atroce, hein, vraiment.
Est-ce qu'elle vous prévient de cette manœuvre ?
Pas du tout. Pas du tout. Elle me l'a dit qu'après. Donc, évidemment, j'ai compris pourquoi j'avais mal. Et non, elle ne m'a pas du tout prévenue sur ce qu'elle était en train de faire. Cette sage-femme a continué son travail de sape puisqu'elle m'a dit que je ne savais pas pousser, que j'étais incapable de faire naître mon enfant, que finalement je ne savais rien, c'était mon premier bébé, il fallait que je l'écoute elle et pas que je m'écoute moi. Donc voilà, ça a été le premier coup dur. On me disait que je ne savais pas faire naître mon enfant, ça a été un premier coup dur dans l'accouchement.
Des témoignages que je lis, souvent les femmes, elles sont absolument conscientes de ce qui se passe, elles sont dans l'échange, elles peuvent encore parler, et j'irai encore plus loin, c'est que les récits qu'elles font, elles sont extrêmement précises sur la temporalité de l'accouchement.
Basma Boubakri, fondatrice de la page Facebook Sivo.
C'est-à-dire quand vous lisez les témoignages, elles vont commencer en disant 9h, 8h, 8h05, il s'est passé ça, etc., etc. Et elles le détaillent comme ça avec une mémoire du temps qui est assez incroyable. Alors j'ai poussé un peu plus loin en me demandant est-ce que ce qu'elles disent au niveau de la temporalité correspondait à ce qui était écrit dans un dossier médical, heure d'expulsion, etc., etc. Souvent, très souvent, à quelques minutes près, elles ne sont pas dans le faux. Donc, je ne vois pas pourquoi, alors qu'elle est dans un état de conscience et d'échange possible, le médecin ne peut pas mettre en place, la sage-femme, le soignant, cette demande de consentement libre et éclairé qui s'impose à nous, parce que c'est la loi.
Je suis arrivée à la maternité à 2h30 du matin. À 3h, j'étais allongée dans la salle de naissance et ma fille n'est née qu'à 6h16 du matin. Donc ça a duré pendant 3h15. Le fait de ces va-et-vient de sage-femme qui à chaque fois me refont pousser pendant un bon quart d'heure et repartent, me remettent dans une autre position, repartent. Et finalement, jusqu'à 5h30, 6h moins le quart.
Vous avez eu, à chaque fois qu'elle venait, est-ce qu'elle pratiquait un toucher vaginal ?
Oui. Une dizaine.
En 3 heures ?
Ouais. Oui, une dizaine, ouais. Ouais. C'est hyper douloureux. Au stade où j'en étais, j'étais à dilatation complète, donc des contractions de fin de travail. Oui, c'est très très douloureux.
Finalement, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 heures ? Comment la situation se débloque ?
Alors, vers 5h30, la sage-femme décide de rompre l'approche des os. Ça, de nouveau, c'est fait sans mon consentement. C'est-à-dire que c'est à l'occasion d'un toucher vaginal et elle me redemande de pousser. Elle me dit, vous avez une demi-heure pour faire naître votre enfant, sinon c'est l'obstétricien et les forceps. Donc là, on prend peur. Au bout de 30 minutes, elle décide donc d'appeler l'obstétricien et on me fait une rachie. C'est une péridurale. Malgré tout, la rachie est posée en fin de travail. J'ai du mal à reprendre ma respiration entre les contractions et ça occasionnera une brèche dans la colonne vertébrale. Qui est assez douloureux, qui a des effets secondaires qui à long terme. Et donc là, on entre dans le vif du sujet. L'obstétricien qui est au milieu regarde et me dit « je vais couper ». Et je lui dis non, je lui hurle non 3 fois. Et il me regarde, il me dit « mais de toute façon, vous n'avez pas le choix ». Et il me montre le ciseau et il fait le geste de couper avec le ciseau et avec le sourire. Et là, il coupe. Il coupe mon périnée, il attrape les forceps et il sort ma fille en moins de 5 minutes. Mon mari, je lui dis de suivre la petite. Et l'obstétricien se retrouve seul et il me recoue. Je lui demande combien de points il m'a fait et il me répond « rien du tout, 2 points ». Apparemment, j'en ai eu plus que ça, d'après la gynécologue que j'ai vue quelques mois plus tard.
L'anesthésie fonctionne pendant la suture ?
Alors, l'anesthésie commence à ne plus fonctionner pendant la suture. L'anesthésie, en tout, a marché un quart d'heure. Donc là, je me retrouve toute seule dans la salle de naissance, sans mon mari et sans mon enfant. Mon mari reviendra 20 minutes plus tard. Donc, on s'est demandé si, ensuite, il y avait eu une urgence, si le cœur du bébé flanchait, parce que ça arrive. Non, voilà. On nous a bien dit non, la petite allait très bien, il n'y avait aucune justification pour qu'on me l'enlève à ce moment-là. Voilà, je n'ai eu aucune justification quand j'en ai demandé une. Ils m'ont dit, mais c'est comme ça. Voilà. Puis, quelques jours plus tard, devant les hurlements de ma fille, on se rend compte qu'elle a la clavicule fracturée. On s'en rend compte à la maternité, 3 jours plus tard, lorsque le pédiatre fait un examen complet de l'enfant et qu'elle hurle lorsqu'on lui touche le bras.
Est-ce que vous recevez beaucoup de témoignages concernant les épisiotomies ?
Oui, l'épisiotomie, elle revient très très souvent et en fait elle laisse des séquelles à la femme qui fait que la femme vient souvent demander des conseils de prise en charge de son épisiotomie et on s'aperçoit quand elle témoigne de ses épisiotomies que souvent on a coupé, elles l'ont su après quand le médecin, la sage-femme est en train de recoudre et des fois elles avaient émis le souhait de ne pas en avoir. Donc j'ai eu un témoignage où une dame, elle avait briefé son compagnon pour pas avoir d'épisiotomie. Et sur le plateau chirurgical, il y avait des ciseaux. En fait, son mari, quand il a vu que c'était pas loin de la phase d'expulsion, en fait, il a pris le ciseau, il l'a jeté au fond de la pièce pour pas que la sage-femme accède au ciseau pour couper. Parce qu'ils étaient presque sûrs qu'elle allait le faire, quoi.
L'épisiotomie, c'est quelques mois plus tard, devant mes douleurs, je suis allée voir ma gynécologue habituelle qui m'ausculte et qui, là, me parle du point du mari. Elle me dit, mais on vous a fait un point du mari. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis juste face à des douleurs, des grosses douleurs. Et là, j'apprends que le point du mari est une pratique qui existe et qui consiste à resserrer l'entrée du vagin lorsque l'on recoue une épisiotomie. Dans certains témoignages, j'ai lu que c'était pour le plaisir du mari, évidemment. Donc, voilà.
Quelles sont les séquelles sur votre vie ?
D'abord, physique, parce que c'est douloureux, qu'on ne se retrouve pas vraiment intimement, ni dans le couple, ni personnellement. Et moi, pas que l'épisiotomie, pas que le point du mari, mais tout cet accouchement dans son ensemble, j'ai eu la sensation d'être complètement dépossédée de mon corps, d'être un objet inanimé qu'on tournait d'un côté et de l'autre, dans lequel on mettait une main sans demander, sans voir qu'on faisait mal. Et en fait, je me suis un peu dépossédée de ce corps. Voilà, j'ai eu l'impression de scinder mon corps et mon esprit, chacun évoluant d'un côté. Voilà. Au moment où j'étais enceinte, je me disais que de toute façon, mon bébé allait bien et que mon corps était fait pour que cet enfant aille bien et que tout se passe bien. J'ai perdu confiance en ce corps et pour ma deuxième grossesse, j'ai été angoissée du moment où j'ai appris que j'étais enceinte jusqu'à la fin. Ça a été un peu 4 ans de cheminement, puis j'ai compris lors de ma deuxième grossesse, donc il y a 10 mois, 11 mois, ce que j'avais vécu. Si c'était à l'intérieur, je ne l'avais pas vraiment mûri. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais vécu et à quel point ce n'était pas normal. Voilà.
Est-ce que vous avez, suite à votre accouchement, des cauchemars, des flashbacks ?
Oui, alors je développe très rapidement des angoisses de mort. Donc je ne dors plus. Je vois 2 psychologues. C'est la deuxième qui me dit quand même que le point fort est l'accouchement. Et le fait aussi qu'on m'ait enlevé cet enfant tout de suite, que je ne me suis pas rendu compte que j'avais accouché. Il y a un espace de vide à ce moment-là, de choc psychologique. Et où je ne sais même pas si mon enfant est vivant.
Est-ce que le patient a le droit de refuser les recommandations de son médecin et ne pas suivre certaines prescriptions, Christian Saout ?
Ben oui, c'est la loi qui le prévoit, c'est comme ça. On ne peut pas conduire sur une personne des actes pour lesquels elle n'a pas donné son consentement, y compris une thérapeutique.
Marie-Hélène Lahaye, juriste.
L'origine de la loi sur le consentement. Donc en fait, ça date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, suite au procès de Nuremberg, où pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, comme vous savez, tout ce génocide et toutes les pratiques où des détenus ont été utilisés dans le cadre d'expériences médicales par des médecins dans le contexte nazi. Et donc il y a vraiment une réaction contre cet dévoiement de la médecine à l'égard des patients. Et très peu de temps après le procès de Nuremberg, il y a eu la volonté des médecins d'inscrire le consentement au départ dans leur code de déontologie. Donc c'était vraiment une façon de dire on ne veut plus ces horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, la médecine, dans son code de déontologie, fait attention au fait que le patient doit exprimer son consentement par rapport à des actes qui sont posés sur lui. Et puis alors, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une forme de changement de philosophie de la médecine. Donc c'est devenu effectivement l'idée qu'on passe d'une médecine où le médecin est un petit peu, fait ce qu'il veut, un peu comme un prêtre. Hein. Enfin, certains médecins expliquent ça comme ça, qui a ses connaissances, qui voit un patient et sur base de ses connaissances générales propose ou impose un traitement au patient. Et donc on est sorti de cette idée de médecine-là et on est passé à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les preuves scientifiques, qui comprend 3 aspects. Donc, on garde l'examen clinique organisé par le médecin. On lui adjoint tout ce qui sort de la science, donc tout ce qui relève de la recherche médicale, des conclusions scientifiques pour étayer le traitement imposé. Et la troisième dimension, donc c'est là où on en arrive à la loi Kouchner, qui est le consentement du patient par rapport à ces trois dimensions-là. Et lui, le patient, qui, sur base de tout ça, décide alors tel ou tel traitement ou consent à telle ou telle proposition de traitement.
Moi, j'ai connu il y a fort, fort longtemps, bien avant qu'on parle de loi Kouchner ou quoi que ce soit, une période, quand j'ai fait mes études par exemple, où...
Benoît de Sarcus, gynécologue obstétricien, chef de service à la maternité de Nanterre.
C'est vrai qu'on ne demandait pas l'avis aux gens quand on les soignait, il n'était pas... C'était même pas dans l'air du temps, c'était pas la culture, c'était pas l'idée de demander l'avis aux gens sur les traitements qu'on leur soumettait, on va dire, c'était même pas imaginable. Alors il y avait quelques patients, parce que moi je voyais surtout des femmes, même pendant mes études, qui posaient des questions, qui résistaient, qui étaient pas très contentes, mais c'était... D'abord, c'était ultra minoritaire et la plupart des personnes qui venaient se faire soigner à l'hôpital, et en maternité en particulier, ne remettaient pas en cause ce que le médecin leur disait. C'était le médecin qui sait, voilà. C'est ce qu'on appelle le paternalisme médical, des choses comme ça. Donc, au cours de mes études, effectivement, j'ai vu des comportements qui étaient tout à fait inacceptables, incontestablement, c'est sûr ça. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, les patientes prennent beaucoup plus la parole, donnent leur avis, disent « non, là, je suis pas d'accord »,« oh non, ça me plaît pas ». Et donc, on a tendance à être un peu plus... à les laisser participer au choix, à leur poser des questions, à leur demander si elles sont d'accord, etc. Donc, voilà, c'est un état d'esprit qui a changé avec le temps et évidemment, pas partout, mais globalement, l'ensemble des hôpitaux que je connais en tout cas, et des services de maternité, a tendance de plus en plus à poser des questions, enfin, à proposer aux patientes de participer au choix.
Alors, c'est pas une évolution, c'est une révolution. Mais ça s'est fait à la fois progressivement, mais il y a vraiment une accélération, effectivement, quand même, on pourrait dire, depuis peut-être la loi Kouchner, parce que j'aurais cité à peu près les années 2002, où moi je n'étais pas en France à cette époque-là.
Hein. Michel, sage-femme à la maternité de Nanterre.
Donc après, c'est comment on se l'approprie avec les patients, c'est le temps dont on dispose avec les patientes, quelles sont ses vulnérabilités, comment on va pouvoir l'aider et l'accompagner sur son parcours jusqu'à l'accouchement et sur l'après-accouchement, sur l'arrivée de l'enfant. On touche à des choses très sensibles et quand on prend le temps avec quelqu'un, on a de toute façon dans la tête de pouvoir lui demander, de lui dire, eh ben voilà, vous allez, si vous souhaitez une péridurale, c'est possible, mais si vous ne la souhaitez pas, c'est tout à fait possible. Et si vous ne la souhaitez pas, il est possible de changer d'avis, vous avez le droit de changer d'avis. Si on vous passe un produit, en aucun cas on peut vous le passer sans vous le dire. Voilà, donc, et du coup, c'est vrai qu'on a une patientèle qui vient chez nous en sachant tout ça déjà. C'est une vraie volonté de travailler autrement et d'être dans un autre registre de professionnel de santé où on n'est pas dans le pouvoir par rapport à l'autre, on est juste à un moment donné quelqu'un sur le parcours d'une femme avec certaines compétences, mais que cette femme-là peut aussi dire de quoi elle a envie, donc on l'accompagne dans ses projets. Voilà.
En fait, la loi de 2002, la loi Kouchner, déjà, il faut bien rappeler que ce n'était pas une loi si innovatrice que ça. Hein. C'était simplement une loi qui transformait les obligations des personnels en droits des patients. Le seul droit que la loi Kouchner a ajouté, c'est le droit à l'accès au dossier médical. Mais c'est tout.
Clara Debord, directrice d'hôpital.
Dans ma formation de directrice d'hôpital, on nous a beaucoup formés sur les questions de droits des patients, puisqu'on le sait peu, mais en fait, c'est le directeur d'hôpital qui est un petit peu la référence quand il y a des questions de droit qui se posent, notamment en urgence, y compris 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne dans ces cas-là? Eh bien, on nous enseigne tout un tas d'exceptions. On nous enseigne comme ça toutes les exceptions et puis les exceptions des exceptions au principe général du consentement. Et qu'il fallait simplement veiller à ces patients qui sont à ces marges-là, qui font qu'on est obligé de prendre un soin tout particulier. C'est le cas des enfants, c'est le cas des personnes âgées, c'est le cas des malades mentaux. À tel point que j'étais persuadée que le consentement de base, lui, il était évident. C'est-à-dire chez une personne qui est en train d'accoucher, qui a tout son cerveau, qui est réveillée, qui a mis du temps plus à réfléchir à ce qui allait lui arriver... Eh bien, c'est une évidence qu'on doit lui demander son accord pour tous les actes que l'on prévoit d'appliquer finalement sur cette personne, sur le corps de cette personne qui n'appartient qu'à cette personne. Or, en fait, au fur et à mesure, et notamment avec les sujets autour de la gynécologie, j'ai moi-même pris conscience que le consentement n'était pas une évidence, en tout cas pas pour les soignants, que parfois il peut même aller à l'encontre, en tout cas pour certains soignants, du principe de bienveillance qui leur a été enseigné, dans le sens où, évidemment, un soignant, sauf les quelques pourcentages de pervers qu'il y a dans toutes les professions, un soignant a plutôt envie de faire le bien. Donc il a plutôt envie, s'il prévoit une épisiotomie pour cette patiente, il a plutôt le sentiment que c'est une bonne chose pour cette patiente. Et comme il veut le bien pour cette patiente, et que lui, il a appris, ou elle, a appris que, à tort ou à raison, il fallait faire une épisiotomie dans ce genre de cas, on voit pas l'intérêt, ça ne vient pas même dans son processus mental, le fait de demander l'accord. Parce que il veut le bien pour ce patient. Et donc, pour certains soignants, le consentement fait obstacle à la bienveillance, ce qui est un comble, puisque naturellement, il ne peut pas y avoir de bienveillance si on ne respecte pas le consentement.
En général, la plupart des gens qui aident une femme à accoucher, on va dire, ils sont concentrés sur leur affaire, et donc ils n'ont pas forcément le temps, l'énergie, l'idée de demander à la dame « vous êtes d'accord pour que je coupe ou pas ?»
Benoît de Sarcus.
Bon, c'est toujours la même idée. Hein. On pense que c'est mieux pour la dame et pour le bébé, donc on le fait, et puis après on réfléchit. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Donc en tout cas, quand j'étais jeune, moi, c'était comme ça qu'on raisonnait. Quand on a appris comme ça, il faut vraiment se retenir de faire l'épisiotomie, parce qu'effectivement, ça accélère l'accouchement. Incontestablement, ça l'accélère. On peut gagner facilement 5-10 minutes en faisant une épisiotomie pour élargir l'orifice vulvaire et permettre à l'enfant de devenir plus facilement. Ça paraissait évident que d'accélérer la naissance d'un enfant, ça rendait service à l'enfant. Donc on était tous là-dessus quand j'étais jeune.
Le problème, c'est est-ce que c'est l'intérêt de la mère ou l'intérêt de l'enfant ? Et parfois, le professionnel de santé peut surinvestir, en tout cas à mon sens, l'intérêt de l'enfant, au détriment de l'autonomie de la mère. Puisqu'en fait, là, il y a deux personnes qui sont concernées. Et donc, soit on considère que tant que l'enfant n'est pas né, eh bien, il n'existe pas, il n'y a que le corps de la mère et l'autonomie de la mère, la future mère, qui compte. Et donc, les décisions de la mère, même qui porteraient préjudice à l'avenir de cet enfant, devraient être respectées jusqu'où, finalement ? Et puis, à quel moment l'autonomie de la mère ne doit plus entrer en ligne de compte parce que ça met en danger la vie de l'enfant qui n'est pas encore né ? C'est des questions éthiques qui sont très compliquées. En tout cas, c'est des questions éthiques qu'il faut se poser parce que certaines mères ont parfois tendance d'être rabaissées au rang de poules pondeuses et de n'être plus qu'un vase dont il faut faire sortir un truc. Peu importe si on casse un peu, on ébrèche un peu le vase, à la fin, le bébé est en bonne santé, on est content.
Moi, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'ai eu la chance d'être avec un patron qui en faisait très peu d'épisiotomie. Par compagnonnage, j'ai vu que lui, il faisait des accouchements parfois très difficiles, parce qu'on l'appelait quand c'était vraiment très difficile, et il faisait pas d'épisiotomie. Donc, ça m'a donné envie de le faire, en me disant, bah oui, si lui, il le fait, pourquoi pas moi ? C'est seulement après, quand j'ai vu que les études confortaient cette idée-là, que ça m'a donné envie de faire la même chose à mon tour quand moi j'ai été chef de service, et donc de dire à mes collègues, bah regardez, moi j'en fais pas, si moi j'en fais pas, vous devriez y arriver, vous êtes pas plus bête que moi, vous êtes parfois même plus habile que moi encore, donc vous devriez y arriver aussi. L'épisiotomie, c'est tellement particulier que moi j'ai développé une pratique où j'en fais quasiment plus. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi on ne pourrait pas faire pareil, quoi.
Un peu partout. Vous avez le temps.
Moi, j'ai le temps et les autres n'ont pas. Bon, voilà.
On tolère ici de laisser pousser les patientes plus longtemps.
Lorraine, sage-femme à la maternité de Nanterre.
Parce que dans d'autres maternités, par exemple, ça, c'est quelque chose qui va nous pousser à faire une épisiotomie. Quand on a atteint la demi-heure de poussée, c'est soit on fait une épisiotomie, soit on appelle le médecin pour qu'il fasse une instrumentation. Donc, on sait qu'on peut être poussé à ça. Donc, le fait de savoir que j'étais parfaitement soutenue pour ne pas faire d'épisiotomie, il n'y avait aucun problème. J'étais ravie de ne pas en faire. Et j'avais pas besoin de formation particulière pour ça. C'est très facile de ne pas faire d'épisiotomie, il suffit de ne pas la faire. C'est beaucoup plus simple que d'en faire une.
En France, 20% des femmes qui accouchent par voie basse ont une épisiotomie. Selon le CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, les femmes s'estiment mieux informées sur cet acte. Mais dans 85% des cas, le consentement n'est toujours pas demandé. À la maternité de Nanterre, les épisiotomies sont extrêmement rares. On frôle les 2%.
Et en matière d'éthique, tout ne relève pas de la loi. La formation des futurs médecins doit aussi prendre en compte cet aspect.
Alors, si vous voulez former des étudiants, c'est bien de les former aux bonnes pratiques, mais il faut aussi les former au bon comportement. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait rien à l'insu de la personne. C'est une question de démocratie, c'est une question de respect de valeurs qui nous sont communes.
Moi, j'ai été formée là-dessus, sur l'idée que le consentement, c'est une évidence, et que simplement, il faut veiller aux personnes qui, par exemple, surtout, parce que c'est le cas en vérité, ne sont pas capables de consentir valablement.
Clara Debord, directrice d'hôpital.
Certaines maladies mentales altèrent la capacité à consentir. C'est-à-dire qu'elles disent oui ou qu'elles disent non, finalement, ne signifie pas véritablement un oui ou un non avec toutes les conséquences que cela signifie. Et donc, le soignant ne peut pas s'appuyer sur ce oui ou sur ce non comme un oui ou un non valable. Pourquoi ? Parce que sa maladie elle-même génère un problème à consentir. Et c'est pour cela qu'il y a une loi en France très particulière, c'est maintenant la loi de 2011, sur laquelle j'ai travaillé, qui définit les conditions qui vont faire qu'on va quand même respecter les droits de cette personne, alors que, contrairement aux autres patients, on ne peut pas s'appuyer sur un consentement valable. Donc ça veut dire qu'il faut que d'autres personnes que ce patient ou cette patiente décident, en maintenant le plus possible l'autonomie quand même de cette personne, qui est quand même une personne majeure. Un patient schizophrène est quand même un patient majeur. Il n'est pas forcément sous tutelle, et même s'il est sous tutelle, il est sous tutelle ou bien, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un chéquier, pour autant, s'il s'agit de l'opérer, il faut quand même lui demander son avis et essayer d'obtenir son consentement. La loi de 2011, elle remplace la loi de 1990, qui elle-même remplaçait celle de 1838, qui est une loi spécifique aux personnes qui ne sont pas capables de consentir du fait de troubles mentaux et qui vont devoir bénéficier ou subir des soins alors qu'elles ne les acceptent pas ou ne les refusent pas valablement. Soit parce que cette personne, par exemple, est convaincue de ne pas être malade et donc elle ne va pas accepter des soins alors qu'elle est convaincue de ne pas être malade, ou parce qu'elle va avoir des prises de risque, par exemple, majeures, et donc on doit intervenir et éventuellement hospitaliser, entre guillemets, de force, cette personne pour la soigner et qu'elle récupère sa capacité à consentir et à prendre des décisions pour sa santé.
Alors, qui peut décider de passer outre le non-consentement d'un malade en psychiatrie ?
Depuis la loi de 1990, seuls les médecins pouvaient prendre cette décision. Les médecins psychiatres, tout un tas de règles étaient définies, c'est-à-dire ces médecins ne devaient pas être parents du patient, ne devaient pas être parents entre eux, devaient faire plusieurs certificats médicaux à des horaires définis, lesquels ne devaient pas être le recopiage du certificat précédent. Donc cette loi de 90 déjà donnait beaucoup de garanties. Et le juge pouvait de temps en temps aller voir si tout allait bien. Depuis 2011, le Conseil constitutionnel a estimé que ce n'était pas constitutionnel de laisser ce droit d'enfermer quelqu'un à seulement des médecins. Alors que la constitution de notre pays dit qu'on ne peut être empêché d'aller et venir, on ne peut être enfermé, que sur décision d'un juge. Et donc, ce que la loi de 2011 ajoute, c'est l'introduction du juge de la liberté et de la détention dans les décisions d'hospitalisation en psychiatrie et même plus généralement de tous les soins obligatoires qui sont parfois imposés à tel ou tel malade en psychiatrie. Et si l'hospitalisation se prolonge ou si les soins sans consentement se prolongent, parce qu'ils peuvent être aussi faits en ville, c'est aussi une nouveauté de la loi de 2011, eh bien, il y a un contrôle très régulier du juge, automatique, plus un accès au juge à tout moment, si le patient le souhaite. Et depuis cette loi, plusieurs patients sont sortis, finalement, des prises en charge, parce que les règles destinées à protéger leurs droits n'avaient pas été respectées.
Moi, je viens ici, entre autres, pour stimuler un groupe de parole qui est afférente à ces histoires de psychiatrie sur le vécu de la chambre d'isolement, l'enfermement.
Vous avez fait l'expérience
Moi, j'ai été 8 fois en HP. Je sors plutôt vraiment pas traumatisé par mon parcours en psychiatrie. Blessé, oui, mais pas traumatisé. Je suis très très curieux, j'ai jamais pu échanger avec des gens autour de la chambre d'isolement.
En juin 2017, à Digne, lors des groupes de parole organisés par l'association du réseau des entendeurs de voix, des patients atteints de troubles dits psychotiques témoignent de leur expérience d'hospitalisation et de soins contraints, comme François. La notion de consentement est au cœur des débats.
C'est quand même un truc particulier en psychiatrie, qu'on soit sous médicament hors les murs, c'est une chose, dans l'hôpital c'est encore une chose, qu'on rentre dans la chambre d'isolement, on n'est pas forcément hyper nombreux à l'avoir fait, Une chambre d'isolement, moi ce que je comprends, c'est que c'est l'endroit où on place un patient pour qu'il se calme et pour qu'on va lui donner plein de médicaments parce qu'il est ingérable au niveau du service ou imprévisible. Ouais, ma chambre d'isolement, j'ai fait 5-6 fois dans plusieurs de l'hôpital de France. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai été interné contre mon gré.
Yann de Robert, fondateur du réseau des entendeurs de voix, porte un regard critique sur les lois qui définissent l'hospitalisation et les soins contraints en psychiatrie.
Donc pour moi, en fait, l'excitation qui s'est produite autour des soins contraints, c'est vraiment un cache-sexe par rapport à ce qui a toujours existé en psychiatrie. Tout d'un coup, on introduit effectivement des avocats, donc la justice, qui va pouvoir valider ou non le fait de priver de liberté une personne. Moi, je trouve ça plutôt intéressant qu'il y ait un regard extérieur à ce qui se passait en psychiatrie. Ça a toujours été possible d'enfermer quelqu'un contre son consentement. Ça a toujours été possible de soigner quelqu'un, d'administrer des médicaments à quelqu'un contre son consentement. Simplement, tout d'un coup, ça sort de l'hôpital. Et ça, c'est la remise en cause du pouvoir médical. Effectivement, c'est très mal vu. C'est-à-dire que tant que c'était à la discrétion des médecins, on se dit, bon... Moi, j'ai vu beaucoup de médecins se présenter comme des humanistes. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les médecins, par défaut, sont des humanistes. Mais moi, je crois que c'est pas la réalité. La société délègue un pouvoir social aux médecins pour agir sur des personnes. C'est quand même ça dont on parle.
À un moment, on m'a attaché, mais c'est assez rare aujourd'hui. Je crois que vous appelez ça, dans le langage de l'hôpital, la contention physique, c'est-à-dire d'être attaché. La chambre où on peut marcher, ça, c'est une chambre d'isolement. D'accord. À un moment, j'ai même cru... Enfin, moi, j'ai un slam où je dis ça, qu'on parle de chambre d'apaisement. Ça se dit aussi, ça ? C'est vrai ? Ça, c'est une blague. Ça, c'est... Chambre de réflexion. Alors, on va t'aider à réfléchir. C'est super marrant.
Concernant le consentement, pour les personnes qui doivent être internées en psychiatrie, il y a aussi des pressions de la famille, souvent.
Oui, alors c'est vraiment la
Laurent Jacquemin, psychiatre.
La difficulté, d'abord effectivement l'étrangeté, quelqu'un qu'on pensait connaître et qui soudain devient étrange. Il est devenu autre que celui qu'on avait l'habitude de côtoyer, hein, qui ne faisait pas trop parler de lui, puis soudain, hop, à 18 ans, il se met à entendre des voix, il a des comportements bizarres, il y a ce côté-là de l'étrangeté. Il y a ce côté aussi du fait que la personne qui est en souffrance, forcément, elle va pointer des dysfonctionnements familiaux. Et les personnes qui, entre guillemets, tiennent la route dans la famille, n'ont pas trop envie de tout ébranler au même moment, puisqu'il y a déjà l'un parmi eux qui n'est pas bien. Et si en plus on commence à démonter toute la baraque en allant chercher dans les fondements ce qui va pas dans la structure de la famille, c'est trop angoissant. Et puis il y a le troisième élément qui est que quand la personne est soignée, nous on la voit, on a vu en 3 semaines, 1 mois, la personne qui s'apaise, elle va mieux, etc. On lui dit, elle va pouvoir sortir. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est cette idée-là ? Parce que dans leur tête, eux, ils en sont restés à la vision traumatique de leurs membres telle qu'ils l'avaient mis il y a 3 semaines, et ils n'ont pas bougé d'idée. Donc, on ne parle pas de la même personne, quoi. On dit, mais si, je vous assure, il a vraiment bien évolué. Non, mais c'est... vous trompez, moi, je sais. Voilà. C'est vraiment la nécessité de travailler avec les familles autant que faire se peut pour pouvoir permettre à la famille d'entendre que c'est une personne, qu'elle a son opinion sur sa vie, qu'elle a des envies, des désirs, que c'est pas forcément ce à quoi elles étaient habituées avant, mais que il faut laisser trouver son chemin, faire sa voie, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est pas simple.
Dans 5 de mes 8 hospitalisations, j'ai été en chambre
François
d'isolement.
François anime un groupe de parole sur l'expérience de la chambre d'isolement.
Je perds la notion du temps, de toute façon. Ce qui est douloureux pour moi, c'est justement d'être contenu dans un espace qui ne correspond pas à quelque chose de naturel. Je veux dire par là que le sol est plat et que directement contre le sol, il y a un mur qui est à angle droit. Et je me rappelle de souvenirs où je cherche la pente, où je cherche le relief, où je cherche quelque chose qui serait, j'ai pas d'autre mot, naturel en fait. Du coup, en fait, quand je suis là-dedans, en fait, c'est une espèce d'espace qui est totalement vierge, puisqu'il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire un matelas et un pot de chambre. Donc des fois, il y a plus, il y a éventuellement un lavabo ou quoi. Et moi, en fait, pendant des jours, moi, c'est mon témoignage en tout cas, je suis dans un mode où je vais créer un monde à partir de rien. C'est-à-dire que si j'ai un drap, un matelas et mon urine, je vais faire un lac qui devient presque artistique de créer du volume, des espaces... j'ai pas d'autre mot, naturel en fait. Ou en fait, moi ce que j'ai compris, c'est qu'on m'enferme là pour que je retourne vers moi-même. C'est tout. Et si c'est difficile, à force de cacheton, tu finiras par revenir. Mais par contre, c'est vrai que c'est dur pour moi par rapport à c'est pas tant que c'est l'injustifié. Moi, j'ai entendu des gens, même je l'ai fait des fois, qui vont passer 10, 12, 15, 24 heures. Taper sur une porte juste pour dire que quelqu'un vient. Des fois, il y a une sonnette. Des fois, il y a une sonnette, alors on peut... Moi, je le dis, je n'ai pas été traumatisée, mais par contre, quand j'en parle, c'est vrai que je n'en parle pas souvent. Il y a de l'affect, quoi. Et je me rappelle d'une chambre où il y avait une sonnette. En théorie, quand on sonne, il y a quelqu'un qui vient, mais en fait... en fait, ils répondent. Ils répondent plus, après. Parce qu'en fait, ils doivent l'allumer que toutes les deux heures, je sais pas. Et en fait, il y a une espèce de truc... Moi, je suis pas parano, mais honnêtement, quand on te met là-dedans... Et du coup, je parle...
Et pour la médication, est-ce qu'on peut forcer un patient qui a des troubles mentaux à prendre un médicament qu'il refuse?
Alors ça, c'était des débats passionnants que nous avons eus lors de la préparation de la loi de 2011. Et puis même, depuis 15 ans, les professionnels discutaient là-dessus.
Clara Debord, directrice d'hôpital.
Parce que la loi de 90, c'était une loi permettant l'hospitalisation sans consentement, c'est-à-dire mettre quelqu'un entre quatre murs, point. Le fait qu'en 2011, on supprime cette notion des murs en disant que ça n'est plus l'hospitalisation qui est sans consentement, c'est les soins. Et ces soins peuvent avoir lieu en ville. C'est-à-dire on peut obliger quelqu'un, grâce à cette loi, à suivre par exemple un traitement consistant à venir tous les jours en consultation, par exemple. Et si il ou elle ne vient pas, il prend finalement le risque que sa santé se dégrade et qu'on le réhospitalise immédiatement. C'est donc une sacrée contrainte en psychiatrie. De là à dire que le médicament lui-même, la médication, est obligatoire, il y a un pas que moi je ne franchis pas, puisque d'ailleurs le patient doit toujours pouvoir quand même décider d'une partie de la prise en charge. Ça n'est pas parce qu'il refuse l'hospitalisation qu'il refuse les soins d'ailleurs. Il y a quand même une alliance thérapeutique minimale, et maximale même, à développer entre le soignant et le patient, même si ce patient n'acceptait pas au départ, ou en tout cas ne l'acceptait pas valablement, avec un oui qui veut vraiment dire oui, cette prise en charge. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, je vous donne un chèque en blanc et vous faites tout, hein, je consens à rentrer en CHU et donc j'accepte d'être un objet d'étude. Non, non. On peut refuser que 10 étudiants viennent nous voir, on peut n'accepter qu'il n'y en ait que 2. Donc, le consentement, ce n'est pas un bloc où on accepte tout, où on refuse tout. Ce sont des étapes et ce sont finalement des négociations où on essaye de prendre en considération le patient dans la plus grande autonomie possible. Puisque finalement, notre intérêt, nous les soignants, même si beaucoup ne supportent pas que je me mette dedans, mais c'est quand même qu'on fasse gagner l'autonomie à la personne.
En tout cas, moi je suis infirmière, je ne contrôle pas si les gens avalent les traitements. Je m'en contrefous qu'ils avalent ou pas. Moi, je donne parce que je suis en accord avec moi-même. Je peux donner, je le fais. J'essaie de temps en temps d'en glisser une au psychiatre en disant peut-être il a peut-être pas besoin de 3 anxiolytiques. Moi, je dis, ils ont la pression des labos. Hein. Ils ont peut-être pas besoin de 3 somnifères. Peut-être un suffirait. Tu vois, on essaie.
Un psychiatre qui va lui donner toutes les informations sur le médicament, pour qu'il soit bien éclairé et qu'il lui propose de prendre ce médicament, sachant que le patient peut dire non. Pour vous, là, on n'est pas dans le consentement.
Non. Non. Pour moi, on est dans la conviction, en fait. Pour moi, on est dans la... Alors, une forme de manipulation douce, mais on a une forme de conviction.
Yann de Robert, psychologue.
Pourquoi je parle de manipulation? Parce que ça se présente sous forme de consentement. C'est-à-dire que pour moi, si on disait, ben voilà, je vais chercher à vous convaincre de le prendre, après, vous ferez ce que vous voudrez. Et moi, mon but, c'est que vous le preniez. Pour moi, ça, ce ne serait pas de la manipulation, ce serait de la conviction. Et quand on dit qu'en fait, on propose un consentement éclairé, là, c'est de la manipulation parce qu'en réalité, le médecin est vraiment en train d'essayer de le convaincre de le prendre. Et on sait, par exemple, parce qu'on a des études scientifiques, mais tous les médecins ne les connaissent pas, on a des études scientifiques qui montrent que, à long terme, le traitement freine le rétablissement. C'est-à-dire que les personnes se rétablissent mieux sans, à long terme. Moi, je veux bien un enregistrement des consultations psychiatriques où les médecins précisent ça aux gens. Et voilà.
Tout à l'heure, tu parlais du psychiatre ou de la psychiatre. Moi, ce que je me rappelle, mais je pense que les gens qui ont été patients l'ont tous vécu, quand on est dans une psychiatre ou un psychiatre, puis qui nous dévisage, puis qui nous juge du regard, puis qui balance « vous êtes dangereux hein, », etc. Et puis qu'on n'ose même pas répondre, parce qu'on a tellement les pétoches sur le traitement qu'on va avoir, ou si on ne va pas finir dans 10 minutes à la salle d'isolement, qu'on répond rien. On est enfermé en nous-mêmes, ça va jusque-là. Et du coup, on n'ose rien dire. Hein, qui dit rien acquiesce, donc bah, voilà, vous avez ci, ça. Quoi.
Comment ?
Il n'y a aucune réponse possible. Comme vous disiez, ce sera
quand une psychiatre balance ça, on est en échec total à 100%. On n'a aucune puissance parce qu'il est tout puissant devant nous. Hein, vous êtes tout puissant.
Donc, lors de cet échange, est venu le thème du consentement. C'est-à-dire que par rapport au, notamment l'hospitalisation en psychiatrie, quelqu'un a évoqué le fait que l'hospitalisation puisse se faire sous consentement et que ça prouvait bien l'utilité de l'hospitalisation. Donc, c'était cette dame qui était par ailleurs médecin, dont le fils avait un diagnostic de schizophrénie. Elle dit effectivement que si son fils a demandé à être hospitalisé, c'est-à-dire pas la première fois, mais dans les fois suivantes, une fois, il a demandé à être hospitalisé de lui-même. Et pour elle, c'était la preuve qu'il trouvait dans l'hospitalisation et donc à l'hôpital des choses qui lui rendaient service. Là, je dis, ah non, non, pour moi, ça, c'est pas du consentement. Et je pense qu'il n'y a pas de consentement. Donc effectivement, là, c'est engagé un échange entre nous deux. C'est-à-dire que pour elle, c'était, ben si quand même, puisqu'il l'a demandé. Et pour moi, mon argument, c'est, mais quel autre choix il avait ? Pour moi, on ne consent pas à un choix unique. Ça, c'est pour moi d'ailleurs, c'est le problème du consentement en médecine en général. Le déséquilibre de pouvoir est tel qu'il n'y a, à mon avis, jamais de consentement en médecine. Comment dire, l'acceptation que ben, c'est tout ce qu'on a à nous proposer. D'une certaine façon, c'est la personne, soit elle accepte le rôle de bon patient et elle va se conformer aux soins. Et donc, on sera de nouveau dans le schéma de ben, ah, ça veut dire qu'elle n'est plus dans le déni de la maladie, elle a accepté qu'elle est malade et donc effectivement elle consent. Et ça pour moi c'est le piège qui s'est refermé, c'est tout, c'est pas du consentement.
En tant que professionnel, quand on parle d'un résident, d'un patient, d'une personne qu'on accompagne sans qu'elle soit présente. Et l'open dialogue, je trouve ça intéressant dans le sens où justement les professionnels parlent en présence de la personne concernée. Mais dans mon travail, la plupart du temps, elle n'est pas là la personne. Au contraire, même on évite qu'elle soit là. Ouais, moi ça me gêne quelque part ça aussi. Même si a priori ils peuvent pas tout comprendre, déjà moi je sais pas tout ce qu'ils comprennent ou pas. On sait rien. Parce qu'il y en a, ils ont pas de capacité verbale à verbaliser ou ils s'expriment pas verbalement. Mais des fois j'avais l'impression qu'ils comprenaient. Mais après, c'est difficile face à une équipe, face à un fonctionnement, parce que c'est comme ça que ça se fait, parce que de toute façon quand on parle d'un patient c'est sans lui et que voilà. Et puis nous, on sait voilà, exactement ce qui est bon pour la personne, effectivement.
Il y a forcément un lien qu'on fait entre l'obstétrique, la psychiatrie et d'autres d'ailleurs prises en charge. C'est le sujet de la vulnérabilité. La personne qui arrive en soins, que ce soit pour accoucher ou que ce soit pour une intervention chirurgicale, elle est en situation de vulnérabilité.
Clara Debord, directrice d'hôpital.
Et donc, ça signifie qu'on doit prendre un soin tout particulier à respecter ses droits, parce qu'elle ne va pas être en situation de facilement faire respecter ses droits elle-même. On est face à quelqu'un qui est en blouse blanche et face à quelqu'un qui va accoucher, qui a peut-être peur. Et très clairement, quand on est allongé, les jambes écartées avec la culotte en bas, on n'a plus tout à fait le même pouvoir sur les choses et on n'a plus tout à fait la même équivalence dans la décision, dans cette interaction qu'il y a avec ce soignant ou ses soignants. Alors, il y a une vulnérabilité en obstétrique. La différence énorme avec la maladie mentale, c'est que cette vulnérabilité n'est pas censée altérer la capacité à consentir et à décider.
Le problème en obstétrique, c'est que beaucoup d'actes sont imposés quand il n'y a pas de consentement. Beaucoup de ces actes impliquent une pénétration sexuelle. Un acte qui implique une pénétration sexuelle sans consentement,
c'est un viol.
Benoît de Sarcus, gynécologue obstétricien.
C'est la définition officielle, d'ailleurs c'est une définition juridique. Toute pénétration, que quelque nature que ce soit dans le corps de quelqu'un, que ce soit un homme, une femme ou je sais pas quoi, ou un enfant encore pire, contre son consentement, est considérée comme un viol.
Et si une patiente dit « mais moi j'ai vécu ça comme un viol ».
Oui, ben je comprends tout à fait, oui, c'est normal, c'est normal.
Je vais juste revenir sur quelque chose par rapport à votre question, c'est que vous dites, en obstétrique, beaucoup d'actes incluent une pénétration sexuelle. Elle n'est pas sexuelle. En tout cas, pour nous, patients, elle l'est pas. C'est dans,
soignant, vous voulez dire
pour nous, soignants, pardon, il n'y a pas de pénétration sexuelle.
Lorraine, sage-femme.
Asexuée, elle est voilà, on essaye tellement d'enlever cette notion de sexualité dans le fait de devoir pratiquer un toucher vaginal qu'on en oublie l'importance que ça a pour les patients.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, on me dit, la loi Kouchner sur le consentement libre éclairé, il n'y a même pas de sanction, c'est juste du vent, voilà.
Marie-Hélène Lahaye, juriste.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sanction pénale. Donc, dans le cadre d'une procédure pénale, donc qui vise à condamner un médecin à une amende ou à une peine de prison dans le cadre d'une procédure pénale, effectivement, on ne peut pas s'appuyer sur la loi Kouchner pour ça. Mais en revanche, la loi Kouchner peut être très utile dans le cadre de recours civils. Donc là, il s'agit de patients qui auraient eu un dommage, donc on aurait eu une faute, un lien de causalité et un dommage sur le patient. Le patient peut aller devant les tribunaux civils pour demander réparation, donc des dommages et intérêts par rapport à leur dommage.
Si demain, les femmes portent plainte au nom de la loi Kouchner contre une épisiotomie sans consentement, est-ce qu'on peut imaginer que des médecins soient sanctionnés ? Ça ferait beaucoup de médecins sanctionnés.
Oui, en fait, on pourrait très bien imaginer que par rapport à une épisiotomie, elle porte plainte au pénal pour mutilation, pour coups et blessures. Donc, donc introduire une plainte qui peut aller, imaginons, jusqu'à une condamnation, à une amende, à une peine de prison au médecin, peut porter plainte au civil ou se porter partie civile pour demander des dommages et intérêts. Donc, pour nous, respect de la loi Kouchner, et puis une plainte à l'ordre pour faire en sorte que le médecin soit radié. Donc on pourrait très bien imaginer la totale, ou ce serait une façon aussi de réduire le nombre d'épisiotomies et le nombre d'actes imposés sur les femmes sans consentement. Oui.
Et comme en gynécologie obstétrique, il y a beaucoup d'actes qui induisent des pénétrations sexuelles, est-ce qu'on peut envisager à ce moment-là que les femmes ne portent plainte non plus au nom de la loi Kouchner, mais au nom d'un acte avec pénétration sexuelle sans consentement, donc un viol.
Donc effectivement, un toucher vaginal effectué sans le consentement de la patiente peut rentrer dans ces définitions-là. On peut considérer qu'il s'agit de surprise, par exemple, ou de contrainte si elle a dit non et on l'a un petit peu forcé pour le faire quand même. Et donc là, il s'agit clairement d'un viol. Et on pourrait très bien imaginer que la patiente porte plainte au pénal.
S'il faut qu'elle porte plainte pour déjà avancer elle personnellement et puis faire avancer le soignant en question, mais ok, qu'elles y aillent. Je suis pas procédurière dans l'âme, mais je pense qu'il faut passer par certaines luttes pour faire avancer les choses. Et je pense que certains soignants n'avancent pas si on les secoue pas.
Vous travaillez à Nanterre, donc tout le monde est sensibilisé à la loi Kouchner, mais est-ce que vous avez l'impression que d'une façon générale, cette loi est encore mal appliquée par les soignants ?
Oui. Oui, tout à fait.
Michel, sage-femme.
Oui, je pense qu'il y a effectivement encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, en même temps, pour prendre du temps, pour être dans le respect de tout ce que la loi Kouchner peut supposer, alors là, je vais faire un aparté, je pense qu'il faut qu'il y ait le nombre de soignants suffisant pour un service. C'est-à-dire quand on coupe les effectifs en deux, les soignants n'ont plus de temps, sont fatigués. Et s'ils sont fatigués, ils sont beaucoup moins dans la relation à l'autre. J'ai fait beaucoup d'endroits. C'est pour l'instant le seul endroit où vraiment il y a un vrai respect des patients. De façon quasi générale, on a des obstétriciens qui sont vraiment tous dans cette dynamique-là de relation, en tout cas. Donc, et même ceux pour lesquels c'était difficile, eh bien, ils sont tirés par les autres, par tous ceux qui voient bien faire autour d'eux, finalement. Mais voilà, il suffit et puis d'être clair et transparent avec les gens. Et puis se battre, ne pas accepter de voir quelque chose se passer sous nos yeux sans rien dire. Quel que soit le corps de métier, hein, médecin, DRH, directeur, rien à faire. Si on estime que ça touche des valeurs profondes, il ne faut pas lâcher l'affaire, le dire. Ne serait-ce que pour protéger la patiente qui est là. Et je pense que tout le monde doit dire quelque chose quand il assiste à un non-respect comme ça de l'individu.
Je voudrais passer à travers ton corps, forcer la serrure de ce coffre-fort, réchauffer ton sang, lécher la blessure, lécher la blessure, car je suis une femme qui pleure, une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule.
C'était Consentement et violence en obstétrique et psychiatrie avec Laetitia, Basma Boubakri, Benoît de Sarcus, Lorraine et Michel, Marie-Hélène Lahaye, Clara Debord, François, Laurent Jacquemin et Yann de Robert.
Nos remerciements à la maternité de Nanterre et au réseau des entendeurs de voix. Documentation musicale Romain Couturier. Prise de son Gilles Gallinaro et Gaël Braouzek. Mixage Manuel Couturier. Attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Productrice coordinatrice Perrine Kervran. Un documentaire de Mélanie Deschalotte et Manouchak Fachaï pour la série documentaire.
Malade, médecin, interne, externe, guéri, mourant ou militant, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour faire taire le médecin pontifiant, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la pédiatre à l'écoute ou nous réécouter en salle de garde, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, nous parlerons de la justice restauratrice, une autre manière de réparer les torts.